Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, nous sommes maintenant à l'entame de la nouvelle saison 2016-2017 et nous continuons notre lecture cursive de Saint Jean avec le père José Willibald Michaud à Maritsou. Nous nous sommes quittés, souvenez-vous, fin du mois de juin avec la guérison de l'aveugle-né et nous entamons les chapitres 10, 11 et 12 qui sont vraiment considéré par certains comme un des sommets de l'Évangile et en tout cas une charnière entre tout ce que nous avons constaté jusqu'à présent et puis l'entrée dans la Passion, puisque le chapitre 13 nous fera entrer dans la Passion proprement dite, avec la scène et puis le discours après la scène auquel le Père José tient beaucoup. Mais cette fois-ci, le chapitre 10, et c'est la grande image du berger, du pasteur. Je vous lis le début de ce chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît et que je connais mon père. Et je me dessaisis de ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime, parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà, Père José, nous avons déjà pas mal de choses à dire à propos de ce grand thème du berger, du pasteur et du pâtre.
Bon, mais le thème du berger, du pasteur, est un thème courant et favori dans toute la Bible. Nous le trouvons dès les origines, dès l'Exode, où Israël est comparé à un troupeau dans la main du Dieu pasteur. Alors, le mot de pasteur et le métier de pasteur peut nous laisser un peu déconcertés parce qu'il n'existe plus beaucoup aujourd'hui. Mais je crois qu'il était très connu et reconnu dans tout l'Ancien Testament. C'est un métier humble et un métier pauvre, mais reconnu et, je crois, apprécié, honoré.
Autrement dit, il n'est pas méprisé, mais il est en dessous de l'échelle sociale.
Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais revenir un moment au vocabulaire qui entoure ce métier. Le mot de pasteur, qui peut se contracter en pâtre, me frappe par sa parenté avec un autre mot proche et tout aussi essentiel, qui est le mot de padre, de père. Il me semble qu'il y a un cousinage entre le berger, le guide, le gardien du troupeau et le père qui conduit ses enfants.
Et alors il y a une chose très intéressante, Père José, et ça conforte ce que vous venez de dire, c'est que le berger connaît ses brebis et il les fait sortir.
Sûrement, c'est ça. Ici, nous aurions plutôt le sentiment qu'un berger est celui qui va ramener ses troupeaux au bercail. Ici, Jésus entre dans le bercail pour en faire sortir dans la liberté les brebis. Il les fait sortir en les mettant en confiance. Il les appelle chacune par son nom et les pousse dehors.
C'est bien ça, le rôle d'un père.
Oui, exactement. L'éducateur, c'est bien ça. Il les pousse dehors, et quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Le berger, ici, indique ce chemin qu'ils ne connaissent pas encore, et il marche devant, il est en tête. Et elles le suivent, parce qu'elles entendent, elles connaissent et reconnaissent sa voix. Le thème de la voix ici est important aussi.
C'est la familiarité, c'est la connaissance, une certaine intimité.
L'intimité, c'est ça. Donc, Jésus insiste beaucoup sur cette intimité qu'il y a entre lui et son troupeau, et chacune des brebis.
Comme il insiste d'ailleurs sur l'intimité qu'il y a entre lui et son père.
Alors, justement, les deux intimités se complètent. Oui, se coordonne et se complète.
Ça, c'est le début. Et puis, Jésus va dire plusieurs fois, c'est moi qui, je suis, ouais. je suis. C'est
la
important.
La seconde étape, avec cette affirmation et ce refrain du « je suis » qui revient au moins 4 ou 5 fois, en disant « je suis, moi, la porte des brebis ». Donc, il a bien insisté sur le fait qu'il est le pasteur libérateur qui fait sortir, mais il faut sortir par la porte. Et là, c'est lui la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il viendra et trouvera pâture. Ici, je voudrais m'arrêter un moment sur le mot pâture, parce que c'est aussi un des thèmes littéraires assez caractéristiques dans la Bible que la pâture est souvent le symbole du bonheur, de la vie aboutie. Et ce thème-là, nous le trouvons surtout chanté dans le Cantique des Cantiques. Là, le mot de pâture est très important. La bien-aimée attend de son amant qu'il la conduise vers la vraie pâture.
Véritable épanouissement, l'élargissement, la libération.
La libération, le mot liberté est important ici. Donc Jésus insiste sur le fait qu'il est la porte même du bercail. Et il insiste à nouveau en disant « je suis le bon pasteur ». Et le signe qu'il est le bon pasteur, le vrai pasteur, c'est qu'il livre sa vie pour ses brebis. Non seulement il mène ses brebis vers la vie, le bonheur, l'épanouissement, mais il donne sa vie pour leur montrer le chemin.
Oui, il l'oppose aux mercenaires, évidemment.
Oui. Hein. Ouais.
Mais il y a aussi une belle expression, Père José, c'est au verset 10, « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. »
Absolument. C'est ça. Alors, c'est une des étapes importantes du discours. Il fait sortir ses brebis vers la liberté pour les mener vers la vraie vie, vers la plénitude de la vie. Et ça, c'est essentiel. Et pour y arriver, il livre sa vie pour ses brebis. Alors, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce thème de la connaissance réciproque est très important. qui a dit que la foi, la suite du Christ, n'est pas possible sans une certaine intimité. C'est le mot que vous avez employé tout à l'heure. Il y a dans la connaissance du Christ une intimité essentielle, nécessaire.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est dans ce récit, il y a un personnage nouveau qui apparaît. C'est le loup, justement, le mercenaire, et puis il y a le loup. Oui. Alors, le loup s'empare des brebis et les disperse. L'action du loup est véritablement le contraire de la libération.
Le loup, c'est évidemment le saboteur qui est à l'œuvre depuis les origines. Et c'est vrai que cette opposition au mal, au prince du mal, elle est présente assez souvent dans les discours de Jésus. Celui que nous appelons Satan. Mais Satan veut dire le saboteur, celui qui divise, qui disperse. Mais alors, après cette phrase-là, donc je livre ma vie pour mes brebis, il y a le nouveau thème qui nous intéresse particulièrement, évidemment, c'est « j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ce bercail ». Ça, je crois que c'est éclairant pour nous et ça nous oblige à rester ouverts sur tous les chemins que peut prendre l'appel du Christ et l'identité de tous ceux qui l'appellent. Celles-là aussi, il faut que je les amène, elles écouteront ma voix. Je crois que le signe de l'identité du croyant qui fait confiance, c'est qu'il entend et reconnaît, il reconnaît la personnalité de la voix du Christ. Il y a une voix qui se fait un chemin jusqu'au cœur de tous ceux qui vont vers la foi.
Nous avons l'expérience d'ailleurs de ces voix qui peuvent véritablement par une vibration toucher le cœur du cœur.
Ah, je crois. Le thème de la voix est très important.
RCF, la joie se partage.
Et puis, il y a toute une réflexion. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis moi-même. Là, il y a vraiment toute une réflexion sur le fait de donner ou de se dessaisir.
J'aime bien vous employer la traduction dessaisir, qui était très importante, je crois, dans notre expérience. Le dessaisissement est fondamental dans l'expérience de la foi. Pouvoir se dessaisir, renoncer à la saisie, renoncer à l'empire sur soi-même, accepter, même vouloir se dessaisir pour entrer dans la vie. C'est fondamental.
C'est fondamental dans l'expérience de foi, c'est faire confiance finalement.
Et ça suppose un dépassement de soi. Le mot dessaisissement est peut-être le meilleur.
Et ce qui est curieux, c'est que à la fin du verset 18, il parle, donc il dit « Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Quel est le sens de ce commandement, Père José ?
Le mot de commandement, dans la bouche de Jésus, est toujours associé au commandement de l'amour, évidemment. Donc, il me semble que c'est encore un geste d'amour pour lui que de pouvoir livrer sa vie, se dessaisir, l'abandonner à l'autre. Et on comprend que ce soit l'ordre du Père, puisque c'est le dernier et le seul commandement que Jésus nous laisse. Et aimez-vous comme je vous ai aimé. Il est déjà présent ici, ce commandement.
Ça a l'air un petit peu surprenant. Comment est-ce qu'on peut dire que aimer est un commandement? Et pourtant, dans l'Évangile, il y a c'est un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc il y a un commandement. Vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Mais je crois que Jésus fait d'abord face à la loi. Il entre dans le système de la loi qui n'est que commandement. Et Jésus va déposséder la loi de son pouvoir en disant « Je vous donne un unique et un seul commandement, s'il y en a un, c'est de vous aimer. » Il renverse le sens du mot « commandement ». Le commandement n'est plus une contrainte, mais une ouverture.
Et ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons au verset 19, 20, 21, tous les faits que ça peut produire. Tous ces bouleversements que Jésus apporte, je lis, ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les Juifs. Oui. Beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé, il déraisonne. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas là les propos de posséder, un démon pourrait-il ouvrir les yeux d'un aveugle. Et voilà, on fait le lien avec le chapitre précédent, oui, évidemment. Oui. Mais de nouveau, ces paroles divisent, apportent la division parmi les auditeurs.
Elles sont décisives au sens étymologique du mot. Elles sont l'enjeu d'un choix, d'une décision, donc un choix est toujours une séparation.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est la fin du chapitre, Père José, c'est que là, on passe à une autre dimension temporelle. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Juifs font cercle autour de Jésus et lui disent « Jusque à quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Et ce cercle autour de Jésus est un cercle menaçant, c'était véritablement un ultimatum.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est la question décisive. Qui es-tu ? Et es-tu le Messie ? Et Jésus se contente de répondre « Mais je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. » Et ce sont les œuvres ou l'œuvre que fait mon Père en moi-même qui rend témoignage pour moi. Ce n'est pas moi qui me donne témoignage, c'est le Père en moi, par moi, à travers moi.
Et puis il ajoute, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles viennent à ma suite. Et donc c'est non seulement le Père, mais c'est aussi les brebis qui manifestement écoutent.
C'est ça, qui écoutent et qui reconnaissent. Il y a dans l'adhésion à Jésus une ouverture de l'oreille du cœur tout à fait particulière. Un entendement nouveau s'ouvre en nous.
Et alors, l'étape suivante, Père José, il y a une gradation et il y a peut-être le sommet du chapitre au verset 30. Je lis le 29 et puis le 30. Oui. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Et puis il ajoute, c'est le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Oui. Et ça, c'est un des sommets du chapitre, me semble-t-il.
Un des sommets du chapitre et qui annonce le grand développement du discours d'après la scène, qui va développer ce thème-là.
Et les Juifs ne s'y trompent pas. Verset 31, oui. Les Juifs à nouveau ramassèrent des pierres pour le lapider. Et Jésus reprit, alors il y a une petite discussion, mais il met en valeur les œuvres, ce qu'il fait, oui. Et non pas ce qu'il dit.
C'est ça. Jésus ramène toujours au témoignage du Père à travers lui. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est la manifestation de ce qu'il est en Jésus. Jésus ne peut pas apporter d'autre témoignage que celui-là. « Je ne suis que le reflet de mon Père, et mon Père est amour », dira-t-il.
Et puis, il y a le passage par une citation d'un psaume, du psaume 82. Oui. Jésus leur répondit, « N'y a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Or, c'est une phrase sur laquelle Jésus n'insiste pas énormément. Il arrive donc à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée.
C'est ça.
Mais Jésus ne s'y attarde pas.
Mais il dit, vous me dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Or, dans le psautier, vous êtes tous déjà appelés à cette glorification. Mais je suis le Fils de Dieu, et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, il revient encore à ce thème, ne me croyez pas. Si je ne fais pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez-en ces œuvres, afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc il vient de dire un peu plus haut, le Père et moi sommes un. Pour Jésus, le seul but, la seule intention qu'il a, c'est de laisser passer à travers lui la vérité du Père, mais comme telle.
Et nous sommes vraiment à la fin d'un épisode ici, manifestement. Il réaffirme que le Père et lui sont un. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la fin du chapitre. Alors, une fois de plus, ils cherchèrent à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Et puis, comme pour boucler la boucle avec le premier chapitre, Jésus s'en retourna au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et il disait, Jean certes n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, ils furent nombreux à croire en lui.
C'est comme un premier point d'arrêt de tout l'évangile, ce rappel du témoignage de Jean. Et ce témoignage de Jean accompagne Jésus jusqu'à la fin, et notamment jusqu'ici.
Véritablement, on voit que l'évangile est très bien construit.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et que Jean est conscient de cette progression, l'évangéliste en tout cas.
Et c'est justement à ce moment-là qu'il va y avoir ce chapitre 11, dont nous allons parler dans la prochaine émission, qui a comme point central Lazare qui est mort et Jésus face à la mort. Et nous sommes vraiment ici dans une sorte de sommet juste avant d'entrer dans la passion.
Sûrement. Et c'est à partir d'ici que va se nouer en projet de haine la décision de le tuer.
Et donc, ce qui est encore une fois intéressant, c'est à quel point ce lien, cette écoute, cette connaissance, ce fait de libérer, provoque la haine en face. Il y a quelque chose d'insupportable.
C'est-à-dire, assister à la libération d'un autre et ne pas y participer peut éveiller le ressentiment. Et le chapitre a commencé en disant « Je suis le pasteur et je viens libérer mes brebis, je dirais, de l'emprisonnement dans le bercail, je viens les conduire sur le chemin de la liberté et de la vie, de la plénitude de la vie. » Ça a été ça le début du chapitre.
Et il y a quelque chose de véritablement insupportable dans les profondeurs de la nature humaine.
Je crois qu'on ne peut lire ce chapitre qu'en acceptant de cesser entraîner dans le mouvement qu'il provoque en nous. C'est un chapitre qui engage.
C'est là-dessus que nous allons nous quitter déjà pour aujourd'hui, Père José. Un grand merci.